Tout à l'heure, tu as parlé de ton déménagement. C'est la raison pour laquelle tu n'avais pas pu venir la dernière fois pour les gens qui s'attendaient à te voir.
Écoute, j'étais dans le barda, dans la poussière. Je trouvais plus mon linge, je trouvais plus mes chaussettes. Je savais plus où ce qu'étaient mes affaires. Ça a été un long déménagement. On est déménagé le 27... En fait, on a emménagé le 27 janvier. Te dire, on n'a même pas fini encore à ce jour.
Qui était la date où tu devais être ici, d'ailleurs.
Exactement. Hein? Ça n'avait aucun bon sens. Alors, je te l'ai dit en arrivant, je te remercie vraiment de comprendre la situation. Écoute, ça n'avait aucun bon sens. Mais là, ça va mieux. Alors, il nous reste les escaliers à terminer. On a emménagé, on est content. Les travaux se sont bien faits en général. On n'a pas eu trop de pépins. Mais pour ceux qui auraient l'intention de construire un condo from scratch, comme on a fait nous autres, là, vous viendrez me poser des questions. Je vous en parlerai. C'est peut-être pas toujours la meilleure solution.
Dominique, on va faire un retour en arrière.
Oui.
Tu as été, on l'a dit, mannequin, oui, de 81 à 91. Qu'est-ce qui t'attirait dans ce métier-là? Est-ce
pas grand-chose, en fait. Non, je te dirais.
Ça fait 10 ans quand même, si
oui,
ça t'était...
Oui, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Moi, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'ai un bac en études françaises. Ce qui m'intéressait, c'était écrire clairement ou travailler pour une maison d'édition, mais vraiment dans ce goût-là. Et puis, j'ai été repérée par ce qu'on appelle un scout d'une agence de mannequins. Et puis, je me suis dit, bon, regarde, je finissais mes études, fait que je me suis essayée pendant un été. Je me disais, si ça marche, ben on verra.
Puis, ça fait des sous, concrètement,
ben,
aussi.
Oui,
là,
exactement. Ouais. Il y a une expression anglophone qui dit « take the money and run ». C'est un peu, je me disais, bon, ben ça pourrait me permettre de faire un peu d'argent, puis de me sécuriser un petit peu, puis tout ça. Puis finalement, la carrière a décollé de façon fulgurante. Alors, j'ai fait le choix de poursuivre ça le temps que ça durait. Fait que je l'ai fait jusqu'à temps d'avoir ma fille, en 91. Et puis, c'était une carrière qui m'a amenée partout. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Je l'ai faite à l'international. J'ai habité New York pendant 5 ans. J'ai travaillé à Paris, à Rome, à Milan. Beaucoup, beaucoup de villes américaines. Aussi à Chicago, avec un photographe qui s'appelle Victor Skribneski, qui est un grand, grand photographe dont on peut voir le travail même dans les musées. J'ai travaillé avec Mabel Thorpe, qui est un grand, grand, grand photographe qui est décédé du sida aujourd'hui, dont on a vu une exposition au Musée des Beaux-Arts. J'étais très chanceuse dans ma carrière de pouvoir rencontrer ces gens-là puis d'avoir eu l'occasion d'échanger avec eux. C'est vraiment des grands, grands artistes. Mais honnêtement, le métier comme tel, je ne vous compterai pas de peur, là. C'est un métier de support à linge, là. C'est pas d'autre chose que ça, être mannequin, dans le fond. Alors, si tu n'as pas prévu le coup pour l'après-carrière, puis si tu n'as pas développé d'autres affinités ou d'autres dons, d'autres intérêts, c'est un peu comme une carrière de joueur de hockey, finalement. Tu sais, quand tu finis, si tu n'as pas préparé le terrain pour après... Tu sais pas trop où tu t'en vas, fait que c'est ça. Alors moi, j'ai eu, je pense, la sagesse de préparer le terrain pour après. Même quand j'étais mannequin, j'écrivais pour des magazines. Bon, tu sais, je me suis ouvert quelques portes pour être certaine que j'atterrirais pas le cul sur la paille en sortant de cette carrière-là.
Mais t'as arrêté au moment où les supermodels sont arrivés, c'est-à-dire les Cindy Crawford,
oui,
Naomi Campbell.
Oui, mais ils étaient plus jeunes que moi, eux autres.
Mais c'était toute une époque où on a beaucoup glorifié la mannequin. Là.
Oui,
c'est devenu des stars internationales, ces filles-là.
Oui, absolument. Oui, exactement. Puis c'était c'est à elles-mêmes, c'était des compagnies, ces filles-là. Là. Tu sais, je pense à Crawford. C'est quoi son prénom déjà?
Cindy Crawford.
Cette fille-là, c'est une fille très intelligente, là, qui avait des études très, très poussées, qui a parti son affaire. Écoute, elle s'est mise à l'abri du besoin, big time, elle.
Oui.
Une fille très intelligente. Puis, donc, c'était à cette époque-là. Mais moi, j'arrivais à 30 ans. Fait que déjà que j'avais menti sur mon âge pas mal quand j'avais fait ma carrière de mannequin, parce que ça m'aidait un peu à bon. Mais j'avais 30 ans, là, j'arrivais à... Puis je voulais avoir un enfant, puis, tu sais, je voyais bien que il n'y a pas que ça dans la vie non plus, tu sais, il fallait que je m'installe, que je m'enracine quelque part. Et puis, tout de suite après ça, ben je suis tombée enceinte. Une première fois, j'ai fait une fausse couche, puis ensuite de Rosemary. Et puis, la vie a fait que le père a disparu dans le décor à ce moment-là, après 7 ans de vie commune quand même. Et puis, j'ai décidé de garder mon enfant. Il n'était pas question que je perde cet enfant-là. Puis je me suis allongée. J'ai eu un accident de voiture qui m'a alité pendant 6 mois. C'est maman qui a pris soin de moi pendant ce temps-là. Puis j'ai eu ma fille en parfaite santé à 39 semaines de grossesse. C'était un bébé miracle. On comprend pas comment ça se fait qu'elle restait accrochée tout ce temps-là, mais elle voulait vivre en titi. Puis d'après moi, elle me voulait comme mère, en tout cas. C'est ce que j'essaie de me faire à craindre. Mais puis elle est née. Puis écoute, c'était l'amour de ma vie. Dans le chapitre que j'ai ajouté à Démaquiller, je dis à Rosemary que j'ai lu quelque part que l'accouchement, c'est le seul blind date où on est assuré de rencontrer l'amour de notre vie. Et c'est vrai. Cet enfant-là naît, puis t'es faite à l'os. Je me rappelle, ma mère m'avait appelé, je venais d'accoucher le lendemain, m'avait appelé dans ma chambre d'hôpital, parce que dans ce temps-là, on restait quelques jours à l'hôpital. Puis elle m'avait dit, puis comment tu te sens? J'avais dit, je suis tellement en amour, maman, ça n'a pas de bon sens. Cet enfant-là m'a happé à la seconde où elle est née. C'est-tu fou l'amour qu'on a pour nos enfants? Ça ne s'explique pas. Les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est difficile pour eux de comprendre ça, mais c'est un amour démesuré, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça nous ronge.
Après la carrière de mannequin, tu es devenue rédactrice pour le magazine Clin d'œil.
Oui.
Donc, tu avais accès à l'écriture, oui. Hein, quelque part.
Ben oui, oui.
Est-ce qu'il y avait une fierté d'être à la tête de ce magazine-là, hyper réputé, évidemment,
ben,
au Québec?
Oui, vraiment beaucoup, parce que, écoute, moi, Clin d'œil, la première page couverture que j'ai fait comme mannequin, c'était Clin d'œil.
Okay.
Fait que j'avais l'impression de boucler une boucle, tu sais, ah oui? Vraiment. Oui, puis aussi, c'était que ça sollicitait chez moi des talents qui dépassaient mon apparence physique. Tu sais, je me devais d'être créative, je me devais d'être intelligente, je me devais d'être organisée, tu sais, pour faire ce métier-là. Puis j'ai fait ça pendant 5 ans, puis ça fait partie des plus belles années de mes carrières, parce que j'ai eu tellement de carrières différentes, tellement de jobs différents. Mais oui, j'étais fière de ça, j'ai beaucoup aimé ça.
Et on oublie peut-être ton passage à Canal Vie, dans les bureaux de Canal Vie.
Oui,
tu as été directrice de la programmation.
Oui, exactement, avec Paul-Émile Bonde, qui m'a recrutée après Clin d'œil. En fait, il est venu me chercher chez Clin d'œil, puis je pensais qu'après 5 ans, j'avais fait le tour du jardin. Et puis finalement, j'ai accepté. Et ça a été une expérience. Fonder une station de télé, puis mettre, tu le sais, t'en créer des émissions de radio. Mm-hmm. Tu sais, créer des concepts d'émissions, c'est assez extraordinaire. Ah, oui. J'ai adoré ça. Puis là, je me suis payé à traite en titi. J'ai fait des émissions qui faisaient beaucoup parler. Je pense à Sortiguer, par exemple,
oui,
qui était une émission sur la vie sociale des homosexuels. Je me disais, il y a 10% d'homosexuels, hommes et femmes dans la société,
oui,
ils ont des frères, des sœurs, des mères, des pères qui sont intéressés à savoir comment ils vivent. Puis je me rappelle, j'en avais passé une vite à Paul-Émile Bonde à ce moment-là parce qu'il avait peur de sortir cette émission-là parce que ça date quand même d'un bon bout de temps.
Ben oui.
Puis il disait, mais tu sais, ça va-tu créer la controverse, puis tout ça. Puis je m'étais dépêchée à signer en cachette avec le producteur le contrat de production.
Avant qu'ils disent non.
Avant qu'ils disent non, exactement. Et c'est une des émissions qui a duré le plus longtemps en ondes à Canal Vie. Ça répondait à un besoin, je trouvais, tu sais. Ouais.
Est-ce qu'il y a une fierté d'avoir lancé une chaîne comme ça?
Ben oui, écoute. Puis en plus, tout le reste de ma carrière a découlé de ça parce que quand j'ai décidé de mettre en onde les copines d'abord, à ce moment-là, c'était Isabelle Maréchal, Geneviève Saint-Germain, Joanne Fontaine, il y avait une autre fille, une jolie rousse, je ne me souviens plus de son nom. Et j'ai mis ça en onde, mais ensuite, quand j'ai décidé de faire de la télé, c'est moi qui est devenue une des filles, une des copines, en fait. Fait que, tu sais, la vie, c'est très étrange. Il y a toujours des chassés-croisés. Il y a toujours toutes sortes de situations qui s'entrecroisent, puis on les voit pas venir, mais il y a toutes sortes de choses qui nous sont réservées sans qu'on puisse vraiment s'en douter.
Depuis 2000, c'est l'écriture.
Oui.
Depuis la sortie de Démaquiller.
Oui.
Avais-tu besoin d'aller dans l'ombre, toi qui as été dans le spotlight pendant près de 20 ans?
Oui, j'avais besoin de retrouver une certaine forme d'intimité. Remarque que le métier public, je me suis jamais vraiment badrée de mon image publique. C'est-à-dire que, tu sais, je respecte les gens, je respecte les gens qui nous regardent à la télé. J'essaie de me présenter en public toujours. J'essaie d'être maquillée, d'être coiffée un peu. Mais je t'avoue que ça m'a jamais empêché d'aller faire mon épicerie avec une couette de même. Tu sais, pour moi, c'est pas. Je ne veux pas que la notoriété publique ou que l'image publique devienne une prison. Je veux me garder cette liberté-là d'aller faire mon épicerie, un peu de travail, puis que même si les gens me regardent et qu'ils disent « Oh mon Dieu Seigneur! » Il y a un gars dans une épicerie, un supermarché, qui est un caissier. Quand il me voit arriver, puis je fais bien, bien dur, là, il n'est pas capable de s'empêcher de le dire. Il dit toujours « Oh, la madame est fatiguée aujourd'hui », puis il prend les autres, il prend les autres clients à témoin, tu sais. Puis ça me dérange pas, je me dis « Coudon, je veux me garder cette liberté-là, moi. Ça me tente pas d'être en prison puis de me sentir obligé toujours d'être pomponné. Je suis comme tout le monde, il y a des jours où je fais dur, puis c'est tout. Bon, tu sais. »
Arrive le premier roman dans ton parcours qui s'appelle « Le pot aux roses », qui vient d'être réédité dans la collection « Nomade ». Après « Démaquillé », est-ce qu'il y avait une fierté différente de dire « c'est une fiction, je fais de mon entrée comme auteur de roman ».
Oui, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je te dirais que « Démaquillé » est presque un accident de parcours, parce que quand mon contrat à la radio est devenu échu, il y avait un éditeur, Édition de l'Homme, qui me demandait toujours de publier. Puis je disais toujours « j'ai pas le temps ». Puis c'est vrai que j'avais une vie professionnelle très, très occupée. Mais là, j'avais du temps devant moi, je ne pouvais plus dire non. Alors, c'est arrivé presque par accident, au fond. Mais le pot aux roses, c'est une décision, c'est une fiction que j'ai imaginée de A à Z. Et puis, c'est vraiment ce que j'avais l'intention de faire toute ma vie, écrire de la fiction, écrire du roman. Alors, celui-là, c'était vraiment une fierté. Là, j'étais contente de l'autre, mais pour d'autres raisons. Celui-là, c'était vraiment... c'est comme si ça me donnait un statut d'auteur, tu sais. Je me disais, bon, là, je suis vraiment un auteur. Ça fait deux livres, j'écris, puis là, j'ai écrit un roman. Enfin, j'étais fière de moi, tu sais.